sous les couvercles, la Good Food.
Aurélie Sada avec nous ce matin, Carlo, avec la sortie de cet ouvrage « Cuisiner le soleil ». Alors Aurélie, c'est difficile de vous coller une étiquette, une artiste protéiforme, compositrice, parolière, interprète, réalisatrice, écrivaine et même depuis peu sur scène au théâtre à Paris. Il y a, pendant quelques semaines, on a pu vous découvrir dans ce registre-là. C'est assez étonnant.
Alors
vous...
la mise en scène et l'écriture de théâtre, c'était, c'était tout nouveau pour moi. C'était la première fois, j'ai adoré. Mais moi j'aime bien me promener sur plein de supports différents. Je trouve que c'est je ne sais jamais si c'est le courage ou la peur qui m'emmène comme ça dans plein d'aventures différentes. Mais j'ai toujours besoin d'explorer.
Oui, et vous explorez aussi grâce à la cuisine. Cette cuisine fondatrice, cette cuisine du Sud. Vous êtes originaire d'une famille tunisienne, installée à Paris, juive tunisienne. Et ce livre, c'est une occasion de convoquer tous ces souvenirs. Il y a par exemple votre maman qui cuisinait toujours très chic, cette tante avec ses bracelets qui travaillait la semoule de couscous. C'est une nourriture qui vous a réconforté, qui a soigné pas mal de vos maux, qui a façonné votre vie et qui s'invite dans votre univers artistique, dans vos films. Je me souviens de ce magnifique film qui, pour moi, est l'un des plus beaux films que j'ai jamais vu, c'est Rose avec Françoise Fabian. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Carlo.
Non.
C'était absolument magnifique. C'est l'histoire d'une femme qui apprend à revivre après le décès de son époux et c'est juste parfait. Il y avait pas mal de scènes de table, mais aussi dans vos mélodies. Un petit extrait s'impose.
Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué, ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier. Des cornes de gazelle, des Monte Carlo, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat.
Ah mais dites donc, vous donnez faim et vous soignez bien grâce à la cuisine dans cet extrait de cet album intitulé Bomboloni. Ça signifie quoi Bomboloni, Aurélie?
Les Bomboloni, ça veut dire beignet en italien.
Ah.
Et chez nous, les Tunisiens, il n'y a pas une fête, il n'y a pas un moment joyeux, il n'y a pas des vacances sans ces fameux beignets. Typiques de Tunisie aussi, qui sont comme ça, tout simples. Ils sont pas fourrés, ils sont comme un anneau, voilà, trempés juste dans le sucre, comme ça, et qu'on mange tout chaud.
Mais si je ne m'abuse, Carlo, les bomboloni en Italie ne sont pas fourrés de crème pâtissière.
Alors, vous avez une demi-heure.
C'est le titre générique.
Oui, ouais. Vous avez une demi-heure. Je vais vous la faire courte parce que je ne veux pas faire mon singe savant. Mais en effet, bomboloni en Toscane, c'est exactement ce que vient de décrire Aurélie. C'est-à-dire une pâte, parce qu'il y a deux types de beignets. Les beignets lourds, les beignets légers. Une pâte légère et absolument non fourrée. Et alors, dans certains coins de Toscane, je ne sais pas pourquoi, on les appelle frati, moines, frères. Et vous avez effectivement, dans le nord de l'Italie, on les appelle à l'allemand, ça fait toujours un peu peur, ils appellent Krapfen, mais ils sont farcis de crème pâtissière, et effectivement parfois on les appelle, alors quand il y a un trou dedans, il y a un trou dedans chez vous en Tunisie, Aurélie ?
Oui, voilà. Il y a un trou, c'est comme un disque.
Voilà. Et parfois on les appelle Ciambelle, voilà. Mais effectivement, la tradition des beignets frits en Italie, et je trouve ça magnifique que ce soit importé comme ça, la Tunisie a importé beaucoup d'Italie, hein, je pense, c'est vraiment...
Parce qu'il y a une grosse immigration d'Italiens en Tunisie.
Claudia Cardinale, on se souvient, voilà, notamment, et donc j'ai trouvé, quand j'ai vu que les bomboloni faisaient partie de votre vie, moi ça m'a replongé évidemment dans la mienne, parce que dans mon petit village sur l'île d'Elbe, le pâtissier, le boulanger fait des bomboloni tous les jours, mais les appelle frats, il va savoir pourquoi.
Moi je les mange avec cette crème pâtissière, il y a des pistaches dessus, c'est juste délicieux. Voilà déjà cette petite interconnexion entre cette passion pour l'art et la cuisine. C'est très drôle parce que dans le film Rose avec Françoise Fabian, dont on faisait mention il y a un instant, au générique de fin, vous avez glissé la recette de macroute, c'est ces petits gâteaux de semoule. Fallait quand même oser, là.
Moi, je me suis dit, c'est marrant. Bon, je lui ai fait faire des macroutes à Françoise Fabian pendant le film. Il y a une scène où elle les prépare. Ouais. Et je trouvais ça drôle à la fin d'un générique. C'est pour ceux qui regardent les génériques jusqu'au bout.
Oui.
J'ai jamais compris. Comme... Je me suis dit, allez, je leur mets une surprise. À la fin du générique, les gens éclataient de rire et je trouvais ça sympa.
Mais il faut les lire, il y a souvent des blagues. Les Monty Python faisaient toujours des blagues dans les génériques.
Exactement. Donc, il faut les lire. C'était pas de la recette. Mais c'est vrai que vous entretenez tenez évidemment un regard très pointu évidemment sur le milieu du cinéma et vous parliez dans un article que j'ai lu en préparant cette émission qu'il y a pas mal de scènes de cuisine au cinéma qui vous ont marqué. Je pense à une scène dans Les Affranchis. On peut peut-être en parler parce qu'effectivement elle est totalement mythique cette scène.
Bah elle est géniale déjà parce que Martin Scorsese fait tourner sa mère
la vraie maman.
Mais je trouve ça super. En fait, j'adore quand la réalité se mélange à la fiction.
C'est ça,
ouais. Je trouve qu'il se passe quelque chose d'un peu magique dans ces moments-là.
La cuisine qui est votre refuge, hein, vous l'écrivez, ce refuge familial, toutes vos créations racontent cette histoire d'ailleurs. C'était une activité, quand vous étiez petite, véritablement transgénérationnelle. Hein, une famille juive, tunisienne, bruyante, le joyeux bordel, on est dans le Paris des années 80. Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette culture culinaire familiale autour du partage? Parce que c'est vraiment ça le leitmotiv finalement.
Quelque chose de très décomplexé. En fait, la cuisine, le lieu, la cuisine, la pièce dans la maison et le fait de faire à manger, c'est l'endroit de la chaleur. C'est l'endroit où on se dit je t'aime. C'est l'endroit où on se reçoit. C'est l'endroit où on rigole. Moi, dans la cuisine, je faisais mes devoirs, on faisait la fête, on préparait des grands moments, on pouvait se disputer avec ma sœur. J'ai dû donner mes premiers baisers dans la cuisine de mes parents, j'en suis sûre.
Parce que, on va tout savoir.
Je crois que c'est un lieu un peu magique. Je trouve que c'est l'endroit où il fait toujours chaud, où c'est simple. Ça se la raconte pas, la cuisine. C'est vrai. C'est de l'ordinaire joyeux. Et c'est, je voulais rendre hommage à tout ça en faisant ce livre-là. À la fois à ce lieu et à cette façon de faire qui est de dire, c'est une façon pudique de réparer les cœurs ou de dire je t'aime que de cuisiner pour quelqu'un, je crois.
C'est joliment dit, hein, ça, Carlo. Mais on le constate, et on n'en parlait pas plus tard que la semaine dernière, la cuisine, c'est le lieu de l'amour, finalement.
Oui, alors, c'est vrai que... Mais, j'aime bien... Alors, Aurélie, vous devez savoir un truc, ça fait 17 ans que je fais cette émission avec Sophie, et quand je commence à parler, en général, elle m'interrompt avant d'avoir entendu ce que je devais dire. Alors, mais évidemment...
Mais on s'aime, Aurélie. Bah,
évidemment qu'on s'aime, depuis longtemps. Et justement, ça permet d'échanger. Mais effectivement, oui, mais j'aime bien ce que vous dites, Aurélie, quand vous dites, dans ma famille, on se disait pas beaucoup je t'aime, et la cuisine est un vecteur. Parce que on a vite tendance à tomber un peu dans le grandiloquent, disant... Ah, je te déverse mon amour avec la bouffe. Moi qui viens d'une famille demi-italienne, parfois ça peut être un peu lourd. Et je trouve que justement, ce côté, on sait pas trop se dire les choses, mais ça glisse avec, au travers des macroutes ou des aubergines parmigiana. C'est ça que vous essayez de dire, non? Vous essayez, que vous dites très bien dans votre livre.
Et puis, ce sont des déclarations. Ce sont des déclarations. C'est une manière simple, sans chichi, en fait, de dire les choses. Tu m'as manqué, j'ai envie de te voir, j'ai envie de me planquer. C'est un refuge, c'est un cadeau, la cuisine. Et puis, on apprend. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées, en fait. C'est ce que j'ai essayé de donner dans mon livre. Ce n'est pas des recettes alambiquées, très compliquées avec des produits. C'est souvent très simple, c'est... Justement pour que ce soit abordable, facile, quoi. Voilà.
C'est une cuisine de l'instinct que vous pratiquez. J'ai quand même le sentiment que vous, le grammage, c'est pas trop votre truc, hein. Me trompe-je?
En fait, c'est compliqué pour moi parce que je cuisine à l'instinct. Je cuisine beaucoup. Je reçois tout le temps. Il y a toujours 10 personnes, 12 personnes autour de la table à la maison. Et j'adore ce bordel-là. Et c'est vrai que je cuisine comme mes grands-mères, en poignée, je sais pas, je goûte, en fait. Il faut goûter. Donc quand j'ai fait ce livre, ça a pas été facile pour moi, parce qu'il a fallu grammer ce que je faisais.
Ça,
et
c'est
là, c'est
cauchemar.
un cauchemar. Parce que c'est pas comme ça que je fais du tout. Je gramme pas, je vérifie pas 10 fois. Et donc, d'ailleurs, je le dis dans le livre, j'ai essayé de faire attention. Je suis sûre qu'il y a des erreurs à l'intérieur. Et je dis aux gens, il faut goûter, en fait. Moi, je fais comme ça. Parfois, on me dit, on va être 4, puis finalement, on est 12, donc je rajoute. Voilà. Mais si on goûte, c'est toujours bien.
Aurélie, la cuisine... Bon, alors, on va laisser de côté les bomboloni 2 minutes, mais la cuisine méditerranéenne, qu'elle soit italienne, qu'elle soit du Maghreb, elle est assez tolérante avec les quantités, non?
Totalement.
Ouais, je trouve aussi.
Donc, elle nous fout la paix à ce niveau-là, on peut y aller, quoi.
Complètement, elle nous fout la paix.
Tant que vous ne mettez pas de l'ananas sur la pizza...
Ah si, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Oui, mais on en parlera.
Non. On va appeler notre œuf ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai fait une pizza blanche avec de l'ananas caramélisé. C'est très bon.
Ah, pizza blanche?
Oui, voilà. Okay.
On peut accepter ça, Aurélie? Ça va?
Oui. Écoutez, de temps en temps, il faut...
J'aime toutes les aventures. Je trouve que c'est amusant. C'est vrai, il y a des choses qu'on n'aime pas et puis qu'on aime plus tard dans la vie. Je sais pas si la pizza hawaïenne, finalement, à un moment donné de ma vie, ça sera pas un truc que j'adore.
Ah, ce qui est mauvais dans la pizza hawaïenne, c'est l'ananas en boîte. Si l'ananas n'est plus en boîte et qu'on l'a fait flamber à la grappa, hein, qu'est-ce que ça peut donner?
Flamber à la grappa?
Mais pourquoi pas?
Peut-être.
Ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bah, écoutez,
mais cette métamorphose!
Mais non!
Mais c'est fou!
Mais vous savez, s'il n'y avait pas eu un type pour mettre de la mozza sur une pizza, on n'aurait jamais inventé la margherita, je vais y arriver.
Bon! J'en apprends des choses dans cette émission, Aurélie, grâce à vous, hein. Il se dévoile, là. Mais donc, dans cet ouvrage, Cuisiner le soleil, une cuisine de l'instinct, et puis tous ces plats que vous cuisiniez à l'époque, et sans doute toujours aussi, la ganaouya, qui est un ragoût de bœuf mijoté.
Avec des gombos.
Ah, les gombos, les oui. Petits, les okras, comme on les appelle à La Réunion, ces petits légumes.
Oui, c'est les légumes qui bavent.
Oui, c'est ça.
Ça bave un
exactement.
Peu, non?
Ça bave un peu. Ouais.
Les pâtes aux merguez aussi, les merguez de la veille, et hop.
Je veux les pâtes aux merguez, s'il vous plaît, Aurélie. Vous pouvez juste la détailler en quelques instants.
Les pâtes aux merguez, c'est marrant parce que c'est vraiment ma recette chouchou. Je l'aime. Wow. C'est la recette du dimanche soir. C'est ce qu'on fait toujours chez nous le dimanche soir quand c'est une sauce tomate qui est pleine d'oignons. Mm-hmm. C'est très important. Plein d'oignons et surtout pas de sucre dans cette sauce tomate parce que les oignons, quand c'est on les fait caraméliser, ouais. C'est sucré. Il n'y a pas besoin.
Ils sont confits, quoi. Ouais.
Voilà, ils sont confits. Mm-hmm. Elle se fait avec du concentré de tomate. C'est vraiment un peu les pâtes du placard. Il y a toujours mm-hmm. des merguez chez nous dans le frigo et il y a toujours une boîte de concentré de tomate, une boîte de tomate pelée, quelques oignons, de l'ail. Hop.
Oh.
C'est.
Et on vide la merguez, Aurélie, ou on la tronçonne en petit morceau?
On la tronçonne. D'accord. Et on en met plein. Ouais. Et ça va donner un peu le piquant, ça va donner les épices, le piquant, et je vous assure que c'est un plat qui rend fou.
Oh là là.
Ah non, mais...
oui, ça donne envie.
Ouais.
Et il y a une petite chose qu'on fait dans les pâtes aux merguez.
Ouais.
En fait, dans la culture juive, on ne mélange pas le lait et la viande. Alors moi, je ne suis pas du tout religieuse, je mélange le lait et la viande. Mais ça donne lieu à une tradition sympathique. En fait, comme on ne mélange pas le lait et la viande, on ne met pas le parmesan dans les pâtes aux merguez. Mais on met le pain gratté. Mmh. On met, en fait, de la chapelure.
Ouais.
Et la chapelure, il faut savoir que dans la tradition italienne, c'est ce qui venait remplacer le parmesan quand on n'avait pas les moyens d'acheter du fromage.
Mais voilà. C'est le parmesan du pauvre, hein, comme on le dit.
Typiquement, Sophie, vous qui êtes à moitié sicilienne, en Sicile notamment, on met de la chapelure.
Ouais. Même
et
des pâtes à la
justement,
chapelure.
J'allais vous demander, Aurélie, parce que je ne sentais pas le parmesan là-dessus. Et finalement, grâce à la tradition, grâce aux contraintes alimentaires, on arrive vers quelque chose de mieux, parce que je suis sûr que cette chapelure... Moi, je suis conquis. Ce week-end, ce sera pâte aux merguez.
Oui.
Quelle pâte? Allez, bon, on choisit des
spaghetti.
Courtes. Spaghetti. Ah, des longues.
Ouais.
Ok.
Ah, nous, on fait toujours spaghetti. Okay. Ouais. Alors, j'imagine que c'est parce que c'est ce qui se trouvait le plus facilement en Tunisie.
Bah, oui.
J'imagine. Mais la tradition, c'est les spaghetti aux merguez.
Très bien.
Et on pourrait même faire revenir dans une poêle cette chapelure avec un peu d'ail, vous savez, pour un petit peu la faire rôtir, croustiller. Ça peut être sympa, ça, non? Aurélie.
Évidemment,
ah, oui.
Magnifique.
Mais c'est vrai que je n'ai jamais osé mettre des merguez dans des pâtes. C'était un truc, je sais pas, j'ai toujours.
Mais vous n'y
blocage.
Aviez pas pensé surtout.
Non, parce que j'ai parfois des restes et voilà. Alors je les pimpe autrement, mais avec par exemple des petites pommes de terre chaudes, etc. Mais la pâte, j'aurais pas osé ce crossover.
Crossover, voilà.
De la cuisine.
On parle local.
Mais c'est ce qui fait tout le charme aussi de votre approche de la cuisine, Aurélie Sada, c'est que vous mélangez toutes les influences. Par exemple, vos tablés, c'est pas entrée plat dessert, on met tout ensemble. C'est le fameux joyeux bordel qu'on appelle chez vous le balagan.
Ouais.
Et on s'amuse. Ouais.
Je crois que c'est le souvenir de la kémia. La kémia, c'est quand on arrive à table dans un restaurant oriental, souvent, vous voyez, vous asseyez et là, on vous met plein. Alors, avant même que vous ayez commandé quoi que ce soit, on vous dispose sur la table des briques, des salades de pommes de terre, des salades machouya, des crudités, des plein de choses comme ça, des choses chaudes, des choses froides. Et ces petites salades qui arrivent comme ça, d'abord c'est génial parce qu'on ne sait plus où mettre les mains, les yeux, voilà. On a envie de tout et on n'a pas envie que ça s'en aille. Et moi, je crois que j'aime bien pour deux raisons. D'abord parce que j'adore le principe de la kémia où voilà, il y a plein de choses sur la table et puis voilà, tout est possible. Et aussi parce que quand je cuisine, j'aime bien passer la soirée avec mes amis.
Mais oui, c'est ça.
Donc,
et vous profitez.
Si j'étais entrée, plat et dessert, je dois tout le temps retourner en cuisine. Alors que là, je mets tout sur la table et je m'assois avec mes amis et là, on peut parler de la vie.
Et alors, il y a par exemple, j'ai trouvé une recette mais très simple, c'est les bricotons avec de la harissa. C'est pas mal. Hein,
ah bah le bric, la pâte à bric, c'est
tout. Oui, mais j'ai jamais mis de thon dedans.
Ah bah c'est le bricoton, c'est...
Bah oui,
c'est
mais
alors, on va laisser parler. Ah oui. On va dire, Aurélie va le dire mieux que nous. C'est une institution tunisienne.
Ouais, ah alors oui. Les bric, c'est au thon.
Ah oui, les bric, c'est au thon.
Oui,
c'est au thon.
Et on met de l'œuf ou pas?
Oui, on met de l'œuf. Œuf dur. Pommes de terre et thon et persil.
Oh, ah oui, carrément.
C'est pas les bréouates.
Ouais. C'est pas mal.
C'est pas les borecs.
Ça, j'ai beaucoup aimé. Et alors, ça va aussi vous plaire, Carlo.
Oui.
Du houmous, mais par-dessus lequel vous allez mettre de la viande hachée au cumin.
Ouais.
Ah, oui.
Ça, c'est vraiment trop bon.
Et l'agneau.
C'est de l'agneau, je suppose. Ouais.
L'agneau, moi, je l'ai fait avec le bœuf, okay. Parce que je l'aime bien avec du bœuf haché, mais on peut le faire avec de l'agneau, évidemment. Mais avec le bœuf haché, c'est un tout petit peu plus léger.
Ah oui, donc, cumin, hein, vous avez dit, c'est ça.
Cumin, bœuf au cumin, ouais.
Bœuf au cumin sur le houmous classique.
Ouais, et donc
ouais, dans une petite sauce légèrement tomatée, en fait. On fait cuire la viande hachée dans un petit peu de... comme une très légère sauce tomate au cumin.
Et alors, on met ça dans un grand plat. D'ailleurs, la photo est magnifique. Et par-dessus, vous mettez ce haché de viande, ce cumin. Quelques herbes aussi, je suppose. J'ai pas fait attention.
Oui, toujours le persil. Ouais, de toute façon, les herbes, c'est tellement important. Et moi, ce que j'aime bien quand je sers les houmous, c'est pas de mettre ça dans des petits bols. C'est plutôt de mettre ça dans des grandes assiettes plates.
Ah oui. Bah oui.
Comme ça, et qu'il y en ait plein dedans, et que les gens viennent se servir, qu'on l'ait vraiment, qu'on n'ait pas à creuser au fond du plat, mais qu'ils soient là, comme ça, qu'ils viennent vers nous. C'est presque le houmous qui vient à nous.
C'est vrai que dans mes vieux souvenirs de premier houmous, un ami libanais, il mettait toujours cela dans une très grande assiette, et effectivement, tout le monde y allait allègrement, on saussait avec le pain, c'était magnifique.
Mais c'est un nouveau sculpte de la générosité de ces cuisines du Sud. Hein, c'est... Hein, qu'est-ce que vous dites?
Mais je disais le partage.
Le
c'est
partage,
vrai qu'on enfile un peu, c'est un peu lieu commun. Mais alors, s'il y a bien des cuisines qui nous ont enseigné les plats à partager qui maintenant sont à la mode dans tous les restaurants branchouilles, c'est vraiment les cuisines de l'Orient, où on ne conçoit pas de ne pas mettre tout sur la table.
Et puis, partager, s'il y en a pour deux, il y en a pour dix.
Bah oui, c'est ça.
C'est pas un problème. C'est des plats extensibles, et c'est ça que j'aime bien aussi.
Méfiez-vous quand même si vous invitez Carlo, hein. Prévoyez quand même une petite dose.
Alors, je m'insurge, parce que c'est vraiment la mauvaise réputation, et j'aimerais tellement vous rencontrer de près, en vrai, Aurélie, puisque nous sommes en duplex aujourd'hui, mais je ne suis pas un gros mangeur. Non, absolument pas. Voilà.
Okay.
Au contraire, je fais partie de ceux qui pensent, et puis on arrête de parler de ma vie, que en fait, l'essentiel de l'appétit, c'est de le retrouver au moins trois fois par jour ou deux fois par jour. Et donc pour ça, il faut le ménager à chaque repas.
C'est bien, Carlo.
C'est
émission
Aurélie l'invité, pas moi.
D'intérêt public.
Non, mais vous colportez cette rumeur depuis longtemps.
Non, mais l'idée, c'était aussi qu'elle vous invite. Je vous lançais une jolie perche, mais bon, vous ne l'avez pas.
Mais je saurais me tenir à table.
Tant pis.
Dites, et alors, on pourrait accompagner ce fameux plat de houmous avec cette viande hachée, avec un bon morceau de pain. Et vous en parlez beaucoup du pain, Aurélie. Et c'est vrai que dans la culture orientale, il est omniprésent. Presque pas un repas sans le pain qui fasse trempette, justement, dans les houmous. Vous nous racontez une histoire assez drôle avec un levain, une espèce de dispute de couple. Il a fallu hausser le ton, hein, parce que vous avez failli l'abandonner, ce levain.
Oui, j'ai failli évidemment. Vous savez, alors, cette histoire est marrante, je la raconte dans le livre. C'est vrai que quand le confinement a démarré, moi, j'aime l'inattendu, j'aime l'imprévu, j'adore les rencontres, je suis très curieuse des autres humains. Et là, on nous annonce qu'on ne va plus pouvoir rencontrer personne et qu'il n'y aura plus d'inattendu. Donc là, un peu perdue, je ne sais plus quoi faire, je m'inscris sur Tinder. Bon, je ne suis pas certaine que c'est ça.
J'adore.
Vous avez retourné votre tête, j'espère. Oui.
J'adore.
Je m'inscris sur Tinder, puis ça me fait un peu flipper quand même. Donc finalement, je me mets à faire du levain. Je me dis, voilà, le levain, c'est le vivant.
Sur le, ouais.
Et donc, je nourris ce levain tous les jours avec de la farine, de l'eau. Mmh. Et on me dit que normalement, au bout d'une semaine, ça va doubler. Et il n'a pas poussé, le mien. Au bout d'une semaine ou 5-6 jours, il n'y avait aucun mouvement. Mmh. Et là, je m'assois en face de lui. Face à ce prince charmant, et je lui dis, écoute-moi bien, si tu ne décides pas de vivre, je vais arrêter de te nourrir.
Et alors, il a eu peur.
Et il a eu peur. C'était incroyable. Le lendemain, il avait doublé.
Vous lui avez mis un super like.
Et oh là là, il m'a fait faire des super pains et je me suis dit quand même, il avait dit ceci est notre corps, n'est-ce pas? Donc
dites-moi,
le pain est quand même un endroit hyper sexy. Voilà. Je l'avais rencontré, l'homme, peut-être le mâle de ma vie.
Mais,
Aurélie... Mais il est toujours en vie, le levain?
Toujours, ah. Il est toujours là.
Ouais. Est-ce qu'il a un nom, ce levain? Vous lui avez donné un prénom? Vous ne l'avez pas nommé?
Non.
Tinder? On pourrait l'appeler Tinder.
Un joli prénom.
C'est cru, je lui trouvais quelque chose de plus joli.
Ouais. Mais, non, c'est parce que je connais des dingues de pain qui ont donné un petit nom à leur levain.
Appelez-le Carlo.
Non.
C'est trop tard maintenant, il n'a pas de nom.
Il n'a pas de nom, on ne peut pas le renommer.
Mais cela étant dit, c'est vrai qu'effectivement, c'est à nouveau, il y a beaucoup de sensualité quand vous parlez, par exemple, de ce levain. Il a fallu mettre du sentiment et de l'émotion dedans. Et du coup, aujourd'hui...
Gueuler un peu.
Oui, gueuler même aussi, mais ça fait partie de l'amour, finalement. Hein. Et aujourd'hui, vous le travaillez beaucoup. Il y a un équivalent de la focaccia qui est l'alacaccia. C'est quoi la différence? C'est juste une terminologie différente ou on met d'autres choses dessus?
C'est autre chose en fait, c'est la recette des ralottes, qui est une recette qui est très facile à faire, où il faut très peu de choses. Le temps de pousse est assez rapide, c'est quoi, 2 heures, quelque chose comme ça, 2-3 heures, voilà. Et ça se fait même avec la levure de boulanger, donc c'est vraiment très très simple. C'est vraiment la base de recette des ralottes, donc ce pain traditionnel de Shabbat. Et voilà, et je m'amuse à faire avec un peu plus d'huile dans des grandes plaques de four décorées de petites tomates ou de plein d'autres choses. D'ailleurs, on peut s'amuser avec des poivrons, et faire un espèce de grand pain à partager.
Et alors, c'est cuit, Aurélie, doucement comme une focaccia ou comme certaines focaccia, ou plutôt très très chaud comme une pizza ou un pain?
C'est comme un pain, donc c'est comme les ralottes, véritablement.
Donc c'est plutôt
fourche. Donc c'est 190 degrés.
Moyen, oui. Ouais. Pas le grand chaud, mais quand même chaud. Ouais.
C'est pas le grand chaud, le pain au levain, c'est plutôt avec le grand chaud, le pain comme ça, c'est... Donc voilà,
y a ça reste moelleux.
Dans le livre, il y a... Ça reste moelleux, exactement. Ouais.
Pas mal, hein, Carlo. Ça ouvre l'appétit.
Et alors, ça sauce. On sauce bien.
Avec ça. Oui.
On sauce bien. Et puis ça gonfle. Il y a ça. Il y a une autre recette que j'adore à l'intérieur, qui est celle de la pizza tunisienne de mon tonton Bernard, qui est un peu la recette de la pizza qu'on fait beaucoup chez nous. Donc c'est des grandes plaques de pizza. Elle est très épaisse, c'est un peu comme une brioche avec une sauce tomate, des anchois, du thon, des œufs durs et des câpres. C'est vraiment
magnifique.
Trop bon, c'est trop bon. Ça vraiment, je conseille à tout le monde d'essayer de la faire, c'est incroyable.
Et ça fait penser un peu à la focaccia des Pouilles, sauf que celle-là est faite au blé dur, mais c'est focaccia moelleuse et très garnie, qui en général, je me souviens, quelqu'un avait apporté un jour ça à l'apéro, et en fait, on n'avait plus faim après, parce que c'était tellement bon.
Et
tellement...
Encore,
Il y a ces tomates et ces anchois qui viennent donner une, comme disent les experts, une sapidité, mais c'est un mot...
Vous n'auriez pas mis les anchois, vous n'êtes pas trop fan, mais...
Alors, on va reparler de ma... ça va mieux.
Ok, je suis ravie. Alors, dans cet ouvrage, Cuisiner le soleil, Aurélie, une foule de recettes, bien entendu, mais aussi des petits tips, les basiques de placard qu'il faut absolument posséder pour pimper notre cuisine du quotidien. Il y a par exemple la Trina, c'est quoi? C'est du tahini? C'est une recette? C'est quoi exactement?
C'est juste avec un accent différent.
Ah,
c'est ça.
Oui.
En fait, la pâte de sésame qu'on achète, alors moi je préfère toujours l'acheter dans les épiceries orientales. Je trouve qu'elle a un goût meilleur. C'est comme l'huile de sésame.
C'est ça. Ouais.
Elle est toujours meilleure dans les épiceries asiatiques. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais c'est fou, comme les goûts sont plus forts, plus prononcés. Et la Trina, en fait, c'est cette sauce à base de pâte de sésame, de jus de citron, d'eau, sel, poivre. C'est tout simple et on la travaille plus ou moins liquide. Et elle accompagne tout. Elle accompagne divinement les viandes, elle accompagne divinement les légumes. Elle peut même accompagner, si on la sale pas trop, les desserts.
Moi,
je trouve ça... Je trouve que la Trina, le tahini, c'est magnifique.
En fait, c'est le même mot, mais prononcé d'un côté à l'oriental et de l'autre côté à la tunisienne, c'est ça?
En fait, on ne mange pas de Trina chez les Tunisiens.
Ah,
c'est
d'accord.
Vraiment le Moyen-Orient.
C'est le Moyen-Orient.
C'est on va dire, Israël, Liban, enfin tout ce coin du monde.
Qui mange le tahini.
Qui fait une cuisine divine, souvent végétarienne d'ailleurs, beaucoup.
Mais donc ce tahini, on va dire, dans ce vocabulaire-là, on le comprend bien ici chez nous, incontournable, il pimpe pas mal de petits plats. Il y a aussi, ça je ne connaissais pas, je ne sais pas si je prononce bien, Aurélie, le
schkug.
Mélange de piment, ail, coriandre. Quoi, c'est une espèce de sauce de pâte, en fait.
C'est trop bon, avec de l'huile comme ça, de l'huile d'olive. C'est comme une... On hache tout ça, ça fait un petit condiment un peu frais, piquant. Et c'est magnifique, ça a beaucoup de fraîcheur, en fait. Donc, ça se mélange très bien avec le tahini aussi, ouais.
Vous connaissiez Carlo ?
Absolument
le
pas, mais...
Schkug.
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 Ok.
non, c'est Schkug. Oui.
Ok.
Rappel, voilà. Une vieille réplique, mais c'est pas grave.
Oui. La chapelure, évidemment, incontournable, les beaux produits de saison, vous aimez écumer les marchés, et d'ailleurs, vous l'écrivez lors de vos tournées, vous allez évidemment découvrir tous les marchés locaux, ça fait partie aussi d'un art de vivre, tout cela, résolument. Aurélie, je sais qu'en général, les artistes détestent ce genre de demande, mais je vais quand même vous la faire. Est-ce que vous accepteriez d'entonner une petite mélodie a cappella quelques secondes, juste pour qu'on puisse se dire au revoir en bonheur? Est-ce que c'est possible? Si vous dites non, c'est pas grave, Carlo s'y colle, hein, mais c'est pas bien, c'est pas une bonne idée.
Bah non, avec plaisir, c'est pas facile, vous savez qu'il est tôt quand même.
Je sais, juste avant midi, c'est bon, on est bien.
Alors, qu'est-ce que je pourrais vous chanter? Dans tes boucles comme des points d'interrogation qui dansent sous ma main, je m'en mêle, je m'accroche à toi, tu m'ensorcelles et tu t'en vas, tu te fais la pelle, tu es le plus beau, je ne sais pas ce que tu veux de moi.
Merci Aurélie.
Merci beaucoup.
Merci, c'est un petit moment de bonheur tout doux dans ce monde de fou.
J'ai pris pour moi.
Mais voilà. Elle était pour vous, elle vous était adressée.
Elle était pour vous, Sophie. Carlo.
C'était pour vous, Sophie, parce que vous avez eu l'audace de le demander. Et je trouve que c'était une belle audace, vous avez bien fait.
Bon, écoutez, voilà. On ne va pas se priver des petits bonheurs comme ça, hein, n'est-ce pas, Aurélie ?
Aurélie,
votre actu au niveau chanson, musique, allez, racontez-nous, faites-nous rêver aussi.
Bah, je suis encore un petit peu en tournée, là, avec Bombolini.
Mm-hmm. Votre album solo.
Je continue
solo.
Les concerts, l'album solo. Et puis, je travaille en ce moment, je suis en écriture de la version longue de la pièce de théâtre qui s'appelle Moins Fort, une pièce de théâtre que j'avais écrite. Donc voilà, là, je suis en écriture à nouveau.
Eh bien, nous
et en écriture de nouvelles chansons. Donc vous me cueillez en pleine cuisine.
Eh bien, on en est ravis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Cuisiner le soleil, par vous, Aurélie Sada. C'est publié aux éditions Hachette Cuisine. Aurélie, merci pour ce bon moment. Je vous souhaite une très très belle journée et plein de bonnes choses à venir, mais je n'en doute pas qu'elles le seront. Merci beaucoup Aurélie.
Merci.
Voilà Carlo, à suivre Elisabeth Dubourg, qui nous rejoint, elle est là derrière
avec les néo-bobos.
Elle salive et elle nous parlera de néo-rétro-bistro Kezako. On en parle juste après cette petite pause pub, les amis.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.